Jean Lacroix, je suis très heureux de vous rencontrer après avoir visité l'exposition qui, au musée Wellington, est consacrée aux Misérables de Victor Hugo, avec une pièce maîtresse qui est un des volumes du manuscrit des Misérables de Victor Hugo. Alors, quelle émotion et quelle aventure ça a dû être de parvenir à obtenir cette pièce rien qu'en la voyant, on ressent une émotion en se disant « Victor Hugo a tenu ça en main, l'a écrit ».
Mais c'est vrai que le manuscrit en lui-même est sans doute au-delà du manuscrit. Quand on voit l'ensemble de l'exposition, on ne peut évidemment qu'être extrêmement ému et touché, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois en Belgique que ce manuscrit arrive, et pas encore en entier, puisque nous n'avons que le premier volume. En fait, il y a deux volumes qui ont chacun à peu près entre 850 et 900 pages. Et c'est le premier volume que nous avons, parce que le second, que nous avions d'abord demandé, n'est plus en état de conservation suffisante. Donc c'est le premier, mais ça nous convenait très bien, puisque c'est le fameux volume dans lequel se trouve l'énorme chapitre Waterloo qu'on connaît bien. C'est vrai qu'avoir un document comme ça en Belgique, c'est extraordinaire. Et Waterloo, c'est encore plus extraordinaire, puisque, vous le savez, il y a tout juste, enfin maintenant un petit peu plus, il y a quelques jours, évidemment, le 30 juin 1861, il y a tout juste 150 ans, il le terminait à l'Hôtel des Colonnes.
Alors ça, c'était l'occasion qui fait de la ronde d'une certaine manière, parce qu'il y a des années que vous vous intéressez, vous, Jean Lacroix, à Victor Hugo. D'où vient cette passion ou cet intérêt que vous avez pour ce grand auteur?
Mais je dirais que globalement, j'ai une énorme passion pour la littérature du 19e siècle. Et Victor Hugo, c'est évidemment une figure absolument extraordinaire. Et je crois que ce qui m'intéresse particulièrement chez lui, c'est sa modernité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un chez qui on peut encore trouver tous les grands thèmes actuels. La peine de mort, elle existe toujours. La torture existe toujours. L'exploitation des enfants, elle existe. La misère existe encore. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'on ne peut qu'être touché, non seulement par les romans, mais aussi par tous les récits politiques et tous les récits d'engagement qui jalonnent sa carrière. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça m'a toujours attiré.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'un roman comme Les Misérables fait la démonstration de ce que le roman dit beaucoup plus de choses sur l'histoire, sur la société, que n'importe quel essai économique ou politique?
Oui, parce qu'il est accroché dans une réalité. Et cette réalité-là, qui était finalement épouvantable au XIXe siècle, quand on lit par exemple le récit de la façon dont étaient traités les forçats, ça donne froid dans le dos. Et c'est vrai qu'il y a véritablement cet aspect-là qui est fondamental, je crois, c'est cette modernité permanente qui nous accroche.
C'est en 1861 que Victor Hugo met le mot fin au bas du manuscrit, d'une certaine manière, des Misérables. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a eu le besoin de venir in situ pour terminer d'écrire Les Misérables, in situ ici à Waterloo?
Il faut savoir que Les Misérables, c'est une très longue écriture. Elle commence en 1845, elle dure jusqu'en 1848, moment où Victor Hugo est pair de France et où il est, disons, plutôt pris par les événements politiques. Donc il va abandonner l'écriture à ce moment-là en 1848, il va la mettre de côté. Il y a, on le sait, tout l'épisode lié à l'exil à partir de 1851, donc c'est un ouvrage qu'il ne reprend pas. Et puis tout d'un coup, quelque part, vers 1853, on voit apparaître sur une couverture arrière de Châtiment, la proposition d'un roman qui s'appelle Les Misères, à ce moment-là, ça s'appelle pas Les Misérables, et puis il le reprend à partir de 1860, sans doute poussé par une nécessité intérieure, et il veut en fait consacrer un énorme chapitre à la bataille de Waterloo. Lui qui a toujours détesté venir à Waterloo, qui a toujours refusé de venir à Waterloo parce qu'il considère que le Lyon c'est un défi à la France, il va finalement venir s'y installer à partir du 7 mai. Ce jour-là, il ne fait qu'une petite apparition, il loge à l'Hôtel des Colonnes et puis il repart. Et il vient se réinstaller le 15 mai, il va rester 2 mois à l'Hôtel des Colonnes qui est en fait situé exactement en face du Lyon. Donc on sait que de ces deux fenêtres, il pouvait voir le Lyon, ce qui ne devait pas toujours lui plaire. Mais il faut savoir aussi que en juin 1861, quand il termine le manuscrit, il n'est pas encore tout à fait terminé. Comme beaucoup d'auteurs, il a fait le jet, disons, global et complet, mais il va faire des corrections, des suppressions, des ajouts, etc., comme tous les auteurs.
C'est ce qui est fascinant aussi dans cette exposition qui se tient au musée Wellington, c'est le fait que l'on peut suivre finalement le parcours de l'écriture. Il y a un des tomes du manuscrit, et puis il y a des épreuves avec des corrections, des échanges entre l'éditeur et lui. C'est un travail assez inouï qu'on découvre.
Oui, en fait, je dirais que les fameuses épreuves corrigées de Bruxelles, il faut le préciser, sont aussi extraordinaire que le manuscrit. Pourquoi ? Parce que, on le sait, Victor Hugo était à Guernesey, l'éditeur était à Bruxelles, et Victor Hugo envoyait donc systématiquement ses textes à l'éditeur, qui les lui renvoyait. Victor Hugo les corrigeait, mais il ne leur envoyait que les corrections. Il ne leur envoyait pas les feuillets lui-même. Ces feuillets étaient conservés à Guernesey, et on est surpris quand on voit dans l'exposition la minutie avec laquelle Victor Hugo corrige, ajoute, donne même des indications typographiques. Le travail est extraordinaire à ce niveau-là. Et en fait, à ce moment-là, ces épreuves, si vous voulez, ont été offertes à Juliette Drouet parce qu'elle recopiait le manuscrit. Et puis pendant des années, elles ont été là, reliées. Et finalement, elles ont abouti à la maison littéraire de Victor Hugo à Bièvre, qui les possède actuellement. Et c'est inouï d'avoir en même temps le manuscrit, les épreuves corrigées de Bruxelles, puisque c'est l'édition définitive, mais aussi les trois éditions premières, parce que c'est paru simultanément à Paris, à Bruxelles et à Leipzig.
Oui, il y avait d'ailleurs tout un commerce entre les trois pays pour alimenter les librairies, enfin les distributeurs du livre, parce que ça a été un best-seller, dirait-on aujourd'hui, très très vite.
Oui, immédiat. Dès l'ouverture, à partir de mars 1862, les gens s'écrasaient dans les rues, il y a d'ailleurs des descriptifs très amusants à ce niveau-là. Mais c'est vrai, on pourrait être étonné de voir qu'il y a eu Bruxelles d'abord, puis Paris et Leipzig, mais en fait, c'est le même éditeur, c'est l'éditeur Lacroix, un homonyme, qui en fait, lui, s'était accoquiné avec Panière à Paris et avec Steinbacher, je crois, à Leipzig, et qui avait donc réussi à s'infiltrer sur le marché européen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1862 aussi, il y a eu des traductions, déjà en italien et même en néerlandais, ce qu'en général on ne sait pas.
Alors, ce qui est aussi assez émouvant d'une certaine manière, quand on s'intéresse à la littérature, au travail de l'édition, c'est de voir la forme de respect avec laquelle l'éditeur suggère parfois ou indique des petites erreurs, des coquilles, des imperfections à Victor Hugo.
Oui, en fait, le problème pour l'éditeur, c'était que Victor Hugo était loin. Il aurait évidemment souhaité que Victor Hugo soit présent à Bruxelles parce que c'est plus facile pour les corrections. Et il a de temps en temps essayé de l'inciter à s'installer à Bruxelles, ce que Victor Hugo n'a évidemment pas fait. Il avait des intermédiaires évidemment ici. Mais c'est vrai que l'éditeur, lui, a de temps en temps suggéré. Il aurait par exemple aimé à un moment donné qu'on condense certaines parties parce que le volume était au départ prévu pour 8 parties. Et finalement, il y en a eu 10. Mais pour l'éditeur, ça n'a rien changé parce que c'était pour le même prix.
Alors, revenons à l'écriture, si vous voulez bien. Victor Hugo se trouve à l'Hôtel des Colonnes, ici, à Waterloo. Vous avez écrit une pièce, d'ailleurs, dans laquelle vous racontez un peu la vie au quotidien de Victor Hugo. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces journées qu'il a passées ici ? Il n'écrivait pas tout le temps, il allait un peu humer l'atmosphère du champ de bataille.
Oui, effectivement. Théo Fleischmann a essayé de retracer un peu les pérégrinations de Victor Hugo, qui effectivement aimait bien aller discuter avec les gens, se promener un peu partout.
Rappelons qui était Fleischmann, parce que c'est quelqu'un qui n'est plus connu maintenant, mais qui était un des grands spécialistes de Napoléon.
Oui, effectivement, Théo Fleischmann était un journaliste, historien également, et il a laissé toute une série d'écrits remarquables. Je crois qu'il doit être mort dans les années 70, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai que c'était un personnage, les frères Fleischmann étaient deux personnages très intéressants, comme vous le dites, au niveau de l'étude napoléonienne. Et aujourd'hui encore, on peut se référer à eux dans une série de cas.
Et Théo Fleischmann avait aussi reconstitué radiophoniquement des épisodes des épopées napoléoniennes.
Oui, effectivement. Non, c'était un personnage vraiment de carrure importante. Et donc, quand Victor Hugo était ici, il faisait énormément de promenades sur le site de la bataille, mais bien au-delà, puisqu'on sait qu'il est allé jusqu'à l'abbaye de Villers-la-Ville, hein, où il avait pensé un moment s'installer avant de venir à Waterloo. Et il allait sur le champ de bataille, il a d'ailleurs récolté là-bas fer à cheval, balles, enfin toute une série de petites choses qu'on trouvait facilement à l'époque. Et aussi d'ailleurs des coquelicots qu'il récoltait pour notre ami Julien Drouet, hein, c'est la maîtresse qui l'accompagnait. Et c'est vrai que dans la pièce que j'ai écrite à l'époque, j'ai essayé vraiment de reconstituer cette vie-là, non seulement la vie de l'homme au quotidien, vous savez, l'homme qui prend ses repas, l'homme qui discute avec ses voisins, qui lit les journaux qui lui sont apportés par un ami français, des choses comme ça, mais aussi l'homme de travail qui est là face à ce lion et qui petit à petit décante un petit peu son récit de la bataille de Waterloo, parce qu'on sait qu'il y a des exagérations, mais on le lui a reproché, mais c'est un romancier avant tout et il n'a jamais fait œuvre d'historien.
Alors, lorsqu'il passait une journée type de Victor Hugo ici à l'Hôtel des Trois Colonnes, c'était quoi ? Il discutait avec l'hôtelier ? Il rencontrait les gens de Waterloo ? Ou bien c'est vous qui avez imaginé ces conversations dans votre pièce de théâtre ?
Non, je me suis vraiment basé sur les récits de l'époque, parce qu'il en reste toute une série de traces, quelqu'un, c'est très amusant, c'est Théo Fleischmann qui le raconte, appelait même Victor Hugo Monsieur Rugo, parce qu'il faisait la liaison entre Monsieur et Hugo. C'était Monsieur Rugo, c'est d'ailleurs très amusant. Pas mal de paysans l'appelaient comme ça. Donc il se levait en général assez tôt, vers 8 heures du matin, il prenait son petit déjeuner bien à l'aise, et puis il partait se promener. C'était ça en général qu'il faisait. Il revenait pour un repas qui n'était pas particulièrement important. Ce n'était pas quelqu'un qui était très attaché à la gastronomie. Et puis, déjà dans le courant de l'après-midi, et puis pendant la soirée, il se mettait alors à l'écriture, et ça pouvait se prolonger parfois assez tard.
Alors, on va revenir à l'exposition. On a vu donc la première salle avec le manuscrit, un des tomes du manuscrit, la deuxième salle des épreuves. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans l'exposition qui raconte un peu cette aventure de l'écriture des Misérables ici à Waterloo?
Dans la même salle que les épreuves, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater, ce sont évidemment des dessins de Victor Hugo, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sait que c'était un magnifique dessinateur qui a laissé des centaines de dessins. Il y a aussi les méchantes critiques qui étaient déjà publiées à l'époque, hein, puisque lui, il était loin, et puis ça faisait bien d'un petit peu frotter la manche du régime de Napoléon III. Il y a aussi des caricatures qui apparaissent déjà dès 1862, qui sont très amusantes, qui concernent plus les personnages que Victor Hugo lui-même. Dans la troisième salle, là, on a replacé tout ce qui concernait ce qui se passe à partir de 1863, année de l'adaptation au théâtre des Misérables par son fils.
Alors, revenons un peu dans la salle numéro 2. Il y a aussi les copeaux dont vous n'avez pas parlé. Que sont les copeaux?
Exact. Voilà. Je vois que vous avez bien suivi l'exposition. Je l'oubliais et c'est extrêmement important. Les copeaux, ce sont en fait des bandes de journaux. Certaines sont très longues, certaines sont de forme carrée, rectangulaire, ou forme de losange, sur lesquelles Victor Hugo prenait des notes. Des notes pour l'un ou l'autre chapitre qu'il avait en tête. Certaines sont très très longues et presque illisibles, mais l'un des copeaux que nous présentons, par exemple, est très très lisible parce que ça concerne toute une série de petites notes qu'il a prises sur la bataille de Waterloo. Ils sont parfois simplement des mots ou un petit bout de phrase qu'il a esquissé et qui vont lui resservir dans l'écriture elle-même du chapitre auquel il pense.
C'est aussi des manuscrits assez émouvants parce qu'on les voit tracés de la main même de Victor Hugo lorsqu'il était ici. Alors revenons, je vous ai interrompu pour parler des copeaux quand même, revenons dans cette troisième salle sur les adaptations.
Oui, donc à partir de 1863, en fait cette salle-là, ça concerne, si vous voulez, la dernière partie du 19e siècle. Donc à partir de 1863, il y a une adaptation du fils de Victor Hugo, Charles, qui est jouée à Bruxelles la toute première fois, parce que l'œuvre est interdite en France, évidemment, et donc les journalistes et les critiques français affluent, hein, de même que le public, ça rencontre un grand succès. La pièce n'est plus jouée à ce moment-là, et elle réapparaît à Paris en 1878, puis en 1899, parce qu'à ce moment-là, le régime de Napoléon III est tombé, Victor Hugo revient lui-même, y assiste, et en 1899, c'est même un célèbre acteur qui a tenu le rôle de Jean Valjean, c'est Coquelin qui avait évidemment créé Cyrano de Bergerac. Mmh. Il y a aussi dans cette salle des éditions absolument magnifiques parce que dès l'époque, il faut bien le dire, les illustrateurs se sont emparés de l'œuvre de Victor Hugo et ça, c'est sans doute ça aussi qui lui a donné un énorme succès parce que les gens pouvaient en même temps, vous savez, il n'y a pas le cinéma à l'époque, hein, donc les gens pouvaient absolument visionner directement l'action. C'était extrêmement important à ce niveau-là. Il y a aussi évidemment de superbes dessins, des estampes, des tableaux, etc. Et aussi 11 statuettes absolument magnifiques qui représentent les personnages, donc 10 personnages des Misérables, plus Victor Hugo lui-même, qui tient d'ailleurs une petite besace sur laquelle il est mis fin des Misérables.
Alors, elles viennent d'où ces petites statuettes? Parce qu'elles sont magnifiques, effectivement. Elles ont quoi, 30 cm de haut à peu près. Et elles sont très expressives. Elles sont comme des caricatures en relief. Mais elles viennent d'où? Quelle est leur histoire?
C'est une histoire un peu curieuse. D'abord, ce sont des œuvres anonymes. Et en fait, elles n'avaient jamais été montrées à personne jusqu'en 2002, lors de notre première exposition, le Victor Hugo 1000 jours en Belgique, où elles ont été montrées sur leur forme originale, qui est en fait un alliage de cuivre. Et maintenant, elles ont été restaurées pour nous. Elles sont absolument magnifiques. Mmh. Et elles proviennent de la maison Victor Hugo à Paris, qui les a acquises dans les années 70. Elles sont passées d'abord par Guernesey, puis elles sont revenues là-bas. Mais elles ont dans les caves, elles ont toujours été dans les caves. C'est chez nous qu'elles ont été montrées, non, été montrées nulle part ailleurs.
Il y a une dernière étape à ce parcours dans l'exposition qui est le cinéma. Il y a eu des adaptations au cinéma à n'en plus finir des Misérables. Alors là, c'est un autre élément de la vitalité de ce roman.
Oui, je pense qu'il était nécessaire de montrer un peu la postérité des Misérables parce que encore aujourd'hui, on connaît l'Académie musicale. C'est une œuvre qui est transplantés de façon systématique. Alors, le cinéma, ça remonte très tôt. On commence en 1913, premier film muet, puis en 1925, puis on passe en 1934 au parlant avec le film très célèbre qui est joué par Harry Bourg dans le rôle principal avec Charles Vanel, Jean Servais, etc. Puis on passe évidemment à la fameuse version de Gabin que je crois que tout le monde connaît. Et puis il y a toute une série d'autres choses aussi. Il y a aussi des références à du théâtre russe, à des adaptations polonaises, à toute une série d'événements qui ont été créés, entre autres sur des lieux même de l'action des Misérables. Par exemple, à Montreuil-sur-Mer, qui est près de Boulogne, à peu près 250 km d'ici, chaque année, ils font un spectacle uniquement avec des amateurs. C'est un endroit où il y a 2000 personnes ou 400 personnes participent au spectacle. C'est absolument extraordinaire. Bon, tout ça, il fallait montrer. Mais dans cette pièce aussi, il y a d'abord une petite partie qui est réservée au Banquet des Misérables. Donc on revient un petit peu en arrière. Oui. Ce Banquet des Misérables, c'est un cadeau qui a été fait par les éditeurs à Victor Hugo, et qui en fait regroupait 80 convives, uniquement masculins, dans lesquels il y avait Hector Malot, Théodore de Banville, le photographe Nadar, les fils de Victor Hugo, etc. Et c'est un événement important parce qu'il a vraiment montré à quel point Victor Hugo avait de l'impact, non seulement en Belgique, mais sur les Français, parce que ses amis sont venus en masse. Ça n'a pas fait plaisir aux Français, au pouvoir français à l'époque. Et alors, ce qui est important dans ce contexte-là, c'est que nous avons les photographies originales de l'époque, qui ont été restaurées par la réserve précieuse de l'ULB, et qui sont absolument magnifiques. C'est très rare de voir des photos d'époque aussi parfaites. Et aussi, les photos qui ont été signées par Victor Hugo ce jour-là, et qui étaient distribuées aux convives, ce sont, à ma connaissance, les seules photographies signées qui existent dans les deux cas.
Alors, Jean Lacroix, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on évoque deux choses. La première, c'est l'histoire, le making-of de l'exposition. Vous êtes commissaire d'une exposition qui est un événement historique avec les pièces que vous avez réussi à réunir. Comment s'organise une exposition comme celle-là ?
D'abord, c'est un travail de très très longue haleine. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Évidemment, j'avais déjà monté une exposition en 2002, j'étais bien introduit dans les milieux hugoliens. Le principal, je pense, c'est d'avoir une crédibilité à ce niveau-là, parce que pour arriver à réunir toutes les pièces, il faut effectivement qu'il y ait un taux de confiance important. Et puis, il y a le choix qui se fait. Le choix se fait, lui, en fonction un petit peu de sa sensibilité personnelle. Moi, j'avais un processus au départ qui était très clair, qui était déjà celui-ci. C'était de montrer un petit peu cette chronologie en partant même des prémices de l'écriture, puisqu'on les retrouve même dans la première salle. On est déjà avant 1861. Et je pense que c'est ça, finalement, qui doit guider. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et puis, le reste, parfois, c'est une question de chance. Je vais vous citer un exemple. Je ne pensais pas qu'on pourrait encore trouver l'affiche originale de la création en 1863 à Bruxelles. Or, 2 mois avant l'exposition, la maison Victor Hugo de Paris m'a téléphoné en me disant « Nous venons de trouver, par hasard, dans nos caves, une affiche que nous n'avons jamais ouverte. C'est celle de 1863 à Bruxelles, au Théâtre des Galeries. Si elle vous intéresse, vous pouvez la voir. Elle est immense. Elle est un petit peu abîmée, mais enfin, c'est un événement extraordinaire, elle n'a jamais été montrée nulle part.
Ça, c'est les coups de chance du commissaire de l'exposition. Alors, vous êtes non seulement commissaire de cette exposition, Jean Lacroix, mais vous êtes aussi le directeur du centre culturel de Waterloo, dans lequel d'autres activités liées à Victor Hugo sont organisées. J'aimerais que vous me parliez de deux. Tout d'abord, la lecture intégrale des Misérables, et ensuite une animation menée par Paul de Gobert. Alors d'abord, la lecture intégrale, ça s'organise comment ?
Oui, c'est une histoire un peu folle. C'était un vieux rêve que je caressais depuis longtemps, c'était de s'engager dans une lecture absolument intégrale, publique et gratuite des Misérables. Alors, bon, le projet est en cours, ça fait déjà 3 mois qu'on a commencé, ça va sans doute durer encore 1 an et demi, puisqu'il y a quand même 2000 pages.
Vous avez lu déjà, vous ?
Oui, j'ai lu moi-même.
Qu'est-ce que vous avez choisi ?
C'était un petit peu au hasard des chapitres, parce qu'au début, comme l'action était un peu lente, tout le long chapitre de Mgr Myriel, c'était un peu lent, donc on a préféré le faire un peu en vase clos. Maintenant que l'action est plus importante, ça va entre autres se faire ici, certains samedis au Musée Wellington, pendant l'exposition. Mais on a fait appel aussi à des bénévoles, c'est-à-dire qu'on a fait un large appel à des lecteurs en leur demandant de venir lire 1 page, 2 pages, 3 pages. Et ça marche très bien, je veux dire, les gens sont de plus en plus accrochés à ce niveau-là. Non, je pense que ça amuse beaucoup nos amis français parce que c'est une chose qu'ils n'ont jamais faite eux-mêmes. Et j'espère qu'on arrivera au bout.
Oui. Et alors, l'animation de Paul de Gobert, dont j'avais noté le titre, mais je ne trouve plus, là, c'est une animation artistique cette fois-ci.
Oui, en fait, dans le contrat programme que nous avons avec la communauté française, nous avons inséré des projets d'artistes en résidence. Le premier, c'était un plasticien, et nous voulions quelqu'un qui sort, qui va dans la rue, qui a l'habitude de travailler à l'extérieur. C'était le cas de Paul de Gobert, qui est un spécialiste à ce niveau-là. Et il va effectivement créer quelque chose de très original le mois prochain, par exemple, et sur le grand...
Le mois prochain, on est au mois de juillet, donc c'est au mois d'août 2011.
Oui, c'est effectivement au mois d'août, il faut le préciser. Il va sur l'immense parking qui se trouve entre la maison communale et le centre culturel, utiliser cet espace, si vous voulez, pour écrire des mots qui proviennent des Misérables. Bon, la justice, la démocratie, enfin, toute série de choses. Et en fait, ça va un petit peu jouer comme un... comment dire, comme un jeu de damier, si vous voulez. Hein, les voitures vont se déplacer, puis les mots vont apparaître de façon très originale. C'est une expérience intéressante. Il a encore d'autres projets.
Hein. Jean Lacroix, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition qui se tient à Waterloo, Les Misérables 150 ans à Waterloo. Et c'est une exposition exceptionnelle qu'il faut absolument aller voir avant qu'elle ne s'achève, parce que malheureusement, ce ne sera pas une exposition permanente dans ce musée Wellington à Waterloo. Jean Lacroix, je vous remercie.
Merci à vous.